professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les mythes amazoniens exploitent-ils les distorsions de point de vue dans l'archipel animiste? Quelle est la métaphysique des relations des Matsiganga? Philippe Descola, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, s'est engagé dans une entreprise de reconceptualisation de sa discipline dans le cadre de sa série pluriannuelle intitulée « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité ». Il réinterroge dans ce cadre les modalités et les institutions du vivre ensemble dans les collectifs non modernes. À partir de ce cours et dans les suivants, il nous inscrit dans les régimes animistes pour analyser ce qu'il appelle les collectifs monospécifiques. Les membres des collectifs animistes, explique l'anthropologue, se voient tous eux-mêmes comme des humains, quelle que soit par ailleurs leur forme générique, tandis que chacun de ces collectifs n'apparaît avec ses caractéristiques qu'aux yeux des autres collectifs. L'identité d'un collectif n'est visible que par les autres. Les gens vautours qui vivent comme des humains voient la charogne qu'ils mangent comme du gibier bouilli. Et c'est seulement lorsque d'autres tribus espèces les visitent que leurs particularités de comportement peuvent être appréhendées comme des indices de leur identité. Dans cette partie du cours, il rappelle son approche dans son livre « Par-delà nature et culture » du concept des tribus espèces dans l'animisme et les trois formules qui vont aider à comprendre les mouvements, l'échange, qui définit une relation symétrique, quand la prédation et le don définissent, eux, une relation asymétrique. Dans une interview que Philippe Descola a donnée à Télérama récemment, il définit ainsi l'animisme des Achuars. L'animisme est la propension à détecter chez les non-humains, animés ou non-animés, c'est-à-dire les oiseaux comme les arbres, une présence, une âme si vous voulez, qui permet dans certaines circonstances de communiquer avec eux. Pour les Achuars, les plantes, les animaux partagent avec nous une intériorité. Il est donc possible de communiquer avec eux dans nos rêves ou par des incantations magiques qu'ils chantent mentalement toute la journée. À ceci s'ajoute que chaque catégorie d'êtres, dans l'animisme, compose son monde en fonction de ses dispositions corporelles. Un poisson n'aura pas le même genre de vie qu'un oiseau, un insecte ou un humain. C'est l'association de ces deux caractéristiques, intériorité et dispositions naturelles, qui fondent l'animisme. Philippe Descola explique encore « Les femmes achuars traitent les plantes comme si c'était des enfants, et les chasseurs traitent les animaux comme si c'était leurs beaux-frères. Voir les achuars traiter les plantes et les animaux comme des personnes m'a bouleversé, se souvient-il. Ce que j'ai d'abord considéré comme une croyance était en réalité une manière d'être au monde, qui se combinait avec des savoir-faire techniques, agronomique, botanique, éthologique, très élaboré. Nous retrouvons ce matin l'Amazonie péruvienne, nous allons à la rencontre des mythes Matsiganga, dont les récits traduisent la situation inconfortable de ce peuple, et nous retrouvons le grand terrain de Philippe Descola, les Achuars. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 6 avril 2016 pour le cours de Philippe Descola, des usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui les collectifs monospécifiques. Thank you.
un autre mythe Matsigenga est le mythe du serpent. Je cite in extenso le mythe tel que rapporté par France-Marie Kasewitz. Le serpent passe tout son temps à chercher et à chasser des tapirs. Mais ce qui est un tapir pour lui est en réalité un homme. Il prend l'affût des heures près d'un chemin dans l'attente d'un passant. En voilà un dont on entend les pas. Il se saisit de sa pointe de flèche, en réalité son crochet à venin, et quand la proie s'approche, la lui fiche dans les côtes. Il se précipite alors sur sa victime pour en arracher la pointe toute rougie. Il la rapporte chez lui, la montre à son beau-frère, Fer de Lance. Fer de Lance est le nom français d'une espèce de serpent particulièrement venimeuse et commune en Amazonie, de l'espèce Botrops atrox. Et il dit donc à son beau-frère Fer de Lance, « Beau-frère, j'ai fléché un tapir. Apporte-moi ta flèche que je l'examine, lui répond-il. » Et découvrant que la flèche est toute rouge, il ajoute, « Oui, tu as réussi, allons ensemble chercher. Où l'as-tu fléché ? Là-bas. » Ils se mettent aussitôt en route et le trouvent étalé par terre. Fer de Lance le tâte, il ne bouge pas, néanmoins il appelle Serpent, « Beau-frère, prends ta flèche et fiche-la à nouveau. » Rapidement, Serpent le pique une deuxième fois, et cette fois, le gisant est bien mort, il le charge et le rapporte chez eux pour le boucaner. Alors, on remarquera que nous n'avons pas affaire ici à une histoire du temps jadis, mais à une sorte de commentaire, qu'on pourrait dire d'histoire naturelle, expliquant pourquoi les gens serpents se comportent aujourd'hui tels qu'ils le font vis-à-vis des humains. Ce n'est pas par méchanceté, simplement, ils les prennent pour des tapirs. Et en dehors de cette déplorable illusion, déplorable évidemment aux seuls yeux des Matsigenga, les serpents se voient eux-mêmes comme des sortes d'humains. Non pas qu'ils partagent la condition des humains comme espèce, puisqu'ils sont justement incapables de voir les Matsigenga sous l'apparence qu'ils prennent à leurs propres yeux, mais parce que tout dans leur mode de vie évoque celui des humains. Alors, il faut préciser ici qu'il s'agit de toute évidence, France-Marie Kasewitz ne donne pas le terme Matsigenga, mais de serpents génériques, dont seul l'un d'entre eux est nommé, Fer de Lance, ce qui suggère, puisque c'est un beau-frère, une endogamie au sein du genre serpent, mais une exogamie entre les différentes espèces qui composent le genre. Donc chez les gens serpents, il y a ainsi des beaux-frères qui chassent à l'arc, qui habitent une maison, qui font boucaner la viande. C'est un collectif homologue dans sa structure et dans son organisation au collectif des gens Matsigenga, et ceci non pas à l'aube de l'humanité ou dans le monde des rêves et des illusions, mais un collectif qui est composé de gens qui déploient une causalité intentionnelle ici et maintenant, et tout particulièrement, évidemment, chaque fois qu'un Matsigenga se fait mordre par un serpent. Les différences de point de vue entre humains et non-humains que les récits Matsigenga mettent en évidence sont évidemment des exemples de cette métaphysique des relations entre espèces si communes en Amazonie qu'Eduardo Viveiros de Castro a appelé le perspectivisme. Je rappelle la définition canonique que Viveiros de Castro en a donnée dans le premier article où il développe le principe du perspectivisme dans un article de Mana en 1996. Je le cite, « Les humains en condition normale voient les humains comme humains, les animaux comme animaux, et les esprits, s'ils les voient, comme des esprits. » Les animaux prédateurs et les esprits voient les humains comme des animaux, des proies, tandis que les animaux, le gibier, voit les humains comme des esprits ou comme des animaux prédateurs. En revanche, les animaux et les esprits se voient comme humains. Ils s'appréhendent comme ou deviennent anthropomorphes quand ils sont dans leur propre maison ou village et vivent leurs propres usages et caractéristiques sous les espèces de la culture. Selon Viveiros de Castro, je rappelle un argument qui est bien connu, la forme humaine et les dispositions culturelles imputées aux animaux par les Amérindiens sont des sortes de déictiques cosmologiques immanents au point de vue. En effet, les ethnonymes amérindiens que l'on a coutume de traduire par les êtres humains, les gens, les seuls véritables, les personnes, etc., qui sont d'ordinaire interprétés comme des signes d'une propension ethnocentrique à réserver le nom générique de l'humanité à la seule tribu qui s'estime en droit de le porter, ces ethnonymes doivent plutôt être envisagés du point de vue de la pragmatique que de la syntaxe, donc de leur usage contextuel plutôt que de la grammaire. Autrement dit, on doit les envisager comme des pronoms et non comme des substantifs. Ils indiquent une position de sujet, ils sont un marqueur d'énonciation et non pas un nom. Et de tels ethnonymes, donc, loin d'être des indices d'exclusion ontologique, nous sommes les seuls hommes véritables, se contente en fait de caractériser le point de vue du locuteur, les gens étant ici synonymes de « nous ». De sorte qu'en disant que les non-humains sont des personnes dotées d'une âme, les Amérindiens leur confèrent en réalité une position dénonciateur, les définissant comme sujets. Je cite une formule bien connue de Viveiros de Castro, et sujet qui possède une âme et possède une âme qui est capable d'un point de vue. Donc le perspectivisme, c'est ici l'expression de l'idée que tout être qui occupe un point de vue de référence et se trouve ainsi placé en situation de sujet s'appréhende sous les espèces de l'humanité, la forme corporelle et les usages des humains constituant des attributs pronominaux du même type que les autodésignations ethnonymiques. Dans la pratique, toutefois, le perspectivisme n'est ni généralisé à la totalité de l'archipel animiste, ni exclusif à celui-ci. On en trouve des exemples saisissants dans ces collectifs typiquement analogistes que sont les communautés autochtones du Mexique, tant contemporaine que précolombienne, mais aussi dans des populations de Mongolie et d'Asie centrale qui semblent osciller selon les lieux entre un régime analogiste et un régime animiste. Je reviendrai à cette question dans une leçon ultérieure. Le perspectivisme, il est donc exprimé au premier chef dans les mythes, de façon exemplaire comme celui que je des Matsigenga qu'on vient de voir, dans les récits d'expériences chamaniques et dans des jugements au sujet des capacités de telle ou telle classe d'êtres, de sorte qu'on doit le voir comme une sorte de théorie épistémologique de la connaissance interespèce ou comme une codification du caractère positionnel de certaines ontologies et non comme un vademecum pratique des interactions entre collectifs humains et collectifs non humains. Son registre du perspectivisme est, me semble-t-il, plutôt de l'ordre de la philosophie spéculative, et c'est d'ailleurs dans cette direction que Viveiros de Castro a développé le perspectivisme au cours de ces dernières années, et non dans celui de la sociologie quotidienne, sur laquelle il n'a aucune emprise normative. Il exprime, au fond, le perspectivisme, une possibilité logique dans un jeu à deux positions. Si les humains se voit avec une forme humaine et voit les non-humains avec une forme non-humaine, alors des non-humains qui se voient avec une forme humaine devraient voir les humains avec une forme non-humaine. Mais dans la pratique, une telle épistémologie de la connaissance mutuelle entre espèces rend les interactions entre collectifs humains et collectifs non-humains extrêmement malaisées, puisque fondées sur le quiproquo permanent. Les humains doivent ou bien accepter, dans leur rapport avec les animaux et les esprits en particulier, qu'il n'y a aucune coïncidence des points de vue, ce qui peut avoir des conséquences très fâcheuses pour eux, ou bien ils doivent corriger mentalement à chaque fois les inversions de perspective pour les réaligner de façon à pouvoir entrer dans une relation de communication avec les espèces avec lesquelles ils interagissent. C'est pourquoi, dans la plupart des interactions effectives entre collectifs humains et collectifs non humains, et non plus dans la théorie générale de leur connaissance mutuelle, les populations animistes se comportent en fait comme si les non-humains les voyaient sous leur forme humaine et non comme des animaux prédateurs ou comme des esprits. Je n'en donnerai que quelques exemples dans lesquels des animaux ou leurs représentants nouent avec les humains ou acceptent de leur part un commerce ordinaire d'humain à humain, en adoptant pour ce faire une forme humaine. On peut en déduire que si des animaux se font reconnaître comme des humains par des humains, c'est qu'ils ont conscience que les humains, auprès desquels ils cherchent à se faire identifier, ont effectivement une forme humaine. Alors, par exemple, Jean-Pierre Chomeil rapporte dans sa monographie sur les jaguars de l'Amazonie péruvienne, Voir, savoir, pouvoir, le récit d'un chasseur qui va rendre visite à la maîtresse des animaux de la Guajal. La Guajal, c'est le terme que, dans l'espagnol local, on donne à des dépressions inondées qui sont peuplées de palmiers Mauritia flexuosa, qui sont assez souvent des lieux où résident les maîtres du gibier. Il va négocier donc avec la mère du gibier un lâcher de gibier, et le commerce est présenté comme pacifique, même si dans la théorie perspectiviste officielle, pourrait-on dire, le chasseur yagua aurait dû être vu comme du gibier par la mère des animaux. Et loin de manifester de l'agressivité, la mère du gibier lui dit, je cite Chomeil, chaque fois que, qui cite son informateur Yagua, « Chaque fois que tu viendras chasser par ici, viens donc m'acheter mes animaux. Je peux te donner des tapirs, des porcs et toutes sortes d'oiseaux. Maintenant, tu peux visiter la cité si tu veux. » Après avoir visité la cité des animaux, le chasseur dit à la mère, « Maintenant, je m'en vais. Quand l'envie m'en prendra, je reviendrai acheter tes animaux. » Et la mère répondit, « Oui, viens encore une autre fois, car je suis disposé à te vendre mon troupeau, les oiseaux, la viande, les tapirs et les poules. Quand tu chasses, passe donc par ici. » Dans le même ordre d'idées, Gerardo Reichel Dolmatov, que j'ai cité dans une leçon précédente, mentionne dans son livre « Amazonian Cosmos » que les animaux visitent dans leurs rêves les chasseurs des sanas de l'Amazonie colombienne sous l'apparence de jeunes filles séduisantes, justement pour les séduire. J'ai moi-même rapporté dans les Lances du Crépuscule, dans une monographie consacrée aux Achuars, une anecdote d'un Achuar qui racontait son amitié avec une loutre à forme humaine, c'est-à-dire qui lui apparaissait sous forme humaine et qui était l'une des incarnations de l'esprit des eaux Tsungi qui venait le visiter toutes les nuits. Plus au nord, alors plus du tout en Amazonie, chez les Cris, Mistassini du Québec, Adrian Tanner, rapporte l'habitude qu'ont les chasseurs d'expliquer les raisons de leur geste à l'ours qu'ils s'apprêtent à tuer, discours que l'ours est dit comprendre. Il est difficile de penser que de telles indications seraient décrites comme possibles si les animaux voyaient les humains simplement comme des animaux prédateurs ou comme du gibier. Donc ces exemples qui contreviennent à la métaphysique perspectiviste officielle n'ont rien de surprenant si l'on se rappelle qu'en régime animiste, les humains et les non-humains sont réputés entretenir des rapports de personne à personne marqués par des régimes de sociabilité et des systèmes d'attitude très précisément codifiés. L'amitié, la séduction, la maternité, l'affinité, l'autorité des aînés, etc. Donc des régimes de sociabilité et des systèmes d'attitude dont les humains qui les adoptent vis-à-vis des non-humains ne peuvent manquer d'escompter, qu'ils appelleront chez ceux-ci une conduite réciproque. Si, à l'instar d'un chasseur hatchoir, je traite un singe laineux, dont je pense qu'il se perçoit comme un humain, selon les usages convenus dans le traitement des beaux-frères, ce qui est le cas chez les hatchoirs, il faut bien que j'attende de ce singe laineux qu'il me réponde à l'identique, c'est-à-dire qu'il me considère en code humain. Car un humain peut nouer un rapport socialement prescrit avec un non-humain qui se voit comme un humain, tandis que le non-humain ne saurait lui rendre la pareille s'il ne lui attribue pas la même humanité dont il s'estime doté, et cette humanité, évidemment, elle s'incarne au mieux, dans la corporéité humaine sous laquelle il le perçoit. Alors évidemment, le non-humain pourrait voir l'humain sous une forme non-humaine et supputer néanmoins que cet humain s'appréhende lui-même comme humain. C'est la spéculation possible. Mais cela supposerait, par conversion réflexive, que cet animal ait lui-même conscience de n'être pas humain en dépit de la forme humaine qu'il s'impute. Ce qui paraît peu plausible, et en tout cas n'est pas confirmé par l'ethnographie, à ma connaissance en tout cas. À l'inverse, ce que l'ethnographie de l'archipel animiste montre amplement, c'est que les schèmes de relations dominants entre les collectifs humains sont également ceux qui caractérisent les relations entre collectifs humains et collectifs non-humains. Alors, j'ai mis en évidence dans « Par-delà nature et culture » que ces schèmes de relations dominants dans les collectifs animistes et entre les collectifs animistes correspondent à trois formules qui assurent le mouvement potentiellement réversible d'une valeur quelconque entre deux termes ayant le même statut ontologique. La première de ces formules, c'est l'échange, et il se caractérise comme une relation symétrique dans laquelle tout transfert consenti d'une entité à une autre entité exige une contrepartie en retour, c'est la définition même de l'échange, tandis que les deux autres formules sont asymétriques, soit qu'une entité A prenne une valeur à une entité B, et cette valeur, ça peut être sa vie, son corps ou son intériorité, sans lui offrir de contrepartie, et j'appelle cela prédation, soit au contraire qu'une entité B offre une valeur à une entité A, et ça peut être elle-même, sans en attendre de compensation, et j'appelle don cette asymétrie positive. Si l'on met l'accent sur les obligations qui découlent de la forme de ces différents types de transferts, plutôt que sur le mouvement des choses transférées, alors on obtient un corps de prescription normative régissant les relations entre les êtres appartenant aux divers collectifs, on obtient une véritable sociologie animiste au sens prescriptif. Alors, je rappellerai brièvement, je l'avais développé dans « Par-delà nature et culture », à partir d'exemples ethnographiques amazoniens, les différentes formes que peut prendre cette sociologie animiste gouvernant indifféremment les collectifs humains et les collectifs non humains. Pour le schème de la prédation, l'illustration qui m'a paru la plus exemplaire est celle des groupes Jivaro de l'Amazonie équatorienne et périvienne, avec en particulier cette forme exemplaire qui est la chasse aux têtes et la vendetta. La chasse aux têtes entre les tribus Jivaro, la vendetta à l'intérieur de chacune des tribus, qui constituent les principaux mécanismes de structuration des destinées individuelles et des liens de solidarité, en même temps que l'expression la plus visible d'une valeur centrale, à savoir l'obligation d'acquérir chez autrui, par la violence, les individus, les substances et les principes d'identité réputés nécessaires à la perpétuation du soi. Il est courant en anthropologie, on l'a fait pendant longtemps, d'interpréter la guerre et la vendetta comme un échange de mort, réglé donc par ce que Marshall Salins avait appelé une réciprocité négative. Or, si l'on prend au sérieux ce qui se passe véritablement dans la vendetta et dans la guerre, dans bien des cas, et en particulier dans le cas Jivaro, si l'on admet par ailleurs que la condition nécessaire de l'échange est l'obtention d'une contrepartie, alors il est impossible de caractériser la guerre Jivaro comme un échange de mort. En effet, si la chasse aux têtes et la vendetta engendrent évidemment à l'ordinaire des représailles, ces représailles, elles ne sont évidemment pas recherchées comme une contrepartie à laquelle on a droit du fait des morts infligées à autrui. Ce serait absurde. Et les Jivaro prennent au contraire toutes les dispositions pour échapper à leurs conséquences. Donc l'appropriation violente et réciproque d'autrui, réciproque parce qu'il s'agit de mouvements qui viennent se suivre les uns les autres dans le temps, mais qui ne sont pas considérés comme des échanges, cette appropriation violente et réciproque d'autrui à l'intérieur de l'ensemble Jivaro est le produit d'une négation de l'échange pacifique et non le résultat délibérément recherché d'un échange de vie humaine à travers une interaction belliqueuse. Ce qui est frappant, c'est que les rapports des Jivaro avec les collectifs non humains sont aussi structurés par le schéma de la prédation. Bien des plantes et des animaux sont pourtant considérés comme des personnes partageant certains attributs ontologiques des humains avec lesquels ils sont liés par des relations de consanguinité et par des relations d'alliance. Et en dépit de cela, les non-humains ne sont pas du tout intégrés dans un réseau d'échanges avec les humains et aucune contrepartie ne leur est consentie lorsque l'on prend leur vie dans le cadre quotidien des activités de subsistance. À l'instar des humains, dans leur rapport à d'autres humains, les non-humains ont même tendance à vouloir se venger de la prédation à laquelle ils sont soumis, comme l'illustre le cas du manioc, plante tout à fait inoffensive, qui constitue l'aliment principal des Jivaro et qui est réputé sucer par ses feuilles le sang des femmes et des qui les cultivent, qui sont donc en contact permanent avec lui, et de leurs enfants en bas âge. Donc la capture de personnes réelles ou virtuelles chez les ennemis proches ou lointains, l'appropriation sans contrepartie du gibier et cette espèce de guérilla quotidienne avec le manioc cannibale exprime, en des domaines différents, un identique refus de l'échange dans les rapports avec autrui, humains ou non humains. Et je m'empresse d'ajouter qu'une telle attitude n'est pas propre aux Jivaro. Bien d'autres exemples de prédation généralisée peuvent être trouvés dans l'archipel animiste, en Amazonie, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Les cas où c'est, en revanche, l'échange qui constituent le schème dominant sont aussi très communs, et notamment en Amazonie. On en a vu un exemple typique lors de la quatrième leçon, lorsque j'ai examiné les collectifs Tucano du nord-ouest amazonien. Je me contenterai donc de rappeler très très brièvement les caractéristiques saillantes du schème de l'échange dans les interactions entre humains et avec les non-humains, tels qu'ils fonctionnent dans cet ensemble pluriethnique. L'obligation impérieuse de l'échange entre les collectifs humains se manifeste d'abord de façon spectaculaire, évidemment, avec l'exogamie linguistique, qui commande à chaque groupe local d'obtenir des épouses dans des groupes parlant une autre langue que la sienne. Bon, il y a d'autres facteurs que j'ai passés en revue qui concourent à imbriquer les peuples du nord-ouest amazonien dans une organisation régionale inclusive, qui sont notamment la division régionale artisanale du travail, qui confère à chaque tribu une spécialisation et donc l'exclusivité dans la confection d'un type d'objet nécessaire à la vie quotidienne de tous. C'est une spécialisation donc qui contribue à une circulation généralisée des artefacts qui accentue le sentiment de dépendance consentie de chacun envers chacun. Enfin, les liens de dépendance mutuelle sont renforcés par la pratique des visites, des fêtes de boissons, etc. Donc, en dépit de la diversité des langues, chaque maloca, chaque groupe de filiation, chaque unité domestique, chaque groupe linguistique a ici conscience de devoir sa pérennité matérielle et idéale aux échanges réglés avec les autres parties du tout. Comme on l'a vu aussi lorsque j'ai parlé du nord-ouest amazonien, dans le rapport avec le monde animal, c'est aussi une logique de la parité méticuleuse dans la compensation qui régit les interactions pratiques, puisque tout animal tué à la chasse doit être compensé par une contrepartie fournie par les humains aux esprits maîtres du gibier, cette contrepartie pouvant parfois prendre la forme de l'âme d'un défunt humain qui se transformera en un animal voué à être chassé. Cette modalité des interactions fondées sur des échanges paritaires entre collectifs humains et collectifs non-humains, n'a rien d'exceptionnel. Je dirais que c'est même probablement le schéma de relation le plus courant en régime animiste. Je n'en donnerai qu'un seul autre exemple, mais qui a le mérite de rendre plus évident encore le fait que les collectifs humains et les collectifs non-humains peuvent être liés par des obligations contractuelles tout à fait semblables à celles qui engage les humains. Alors le cas se situe très loin de l'Amazonie, parmi les Reungao des hauts plateaux du Vietnam central. Je me réfère ici à la monographie du père Émile Kemelin. L'anecdote suivante est rapportée donc par le père Kemelin au sujet d'une femme qui s'appelle Oi. Je cite donc le père Kemelin. Un soir qu'elle pilait son riz sur l'avancée de sa maison, un tigre se débattait tout à côté d'elle, étouffé par un os qui lui était resté dans la gorge. Un des bonds prodigieux qu'il faisait pour se débarrasser du corps qui le gênait, il atteignit l'avancée de la maison. Oi, saisi d'effroi, laissa échapper son pilon qui alla tomber sur la tête de l'animal. Celui-ci en éprouva un tel sursaut que du coup il fut débarrassé de l'os qui l'étranglait. Il partit tout joyeux. La nuit suivante, la femme revit l'animal en songe sous forme humaine. Nous allons conclure ensemble amitié de père à fille, dit le tigre à Oi. Elle répond : Je n'ose pas, qui serait assez audacieux pour prétendre à pareille chose. Assaut d'amabilité, au contraire, c'est moi qui ai peur d'essuyer un refus de ta part, etc. Le lendemain matin, pendant que la femme se rendait au bois, elle rencontra de nouveau le tigre, mais cette fois non plus en rêve, mais en chair et en os. il tenait un énorme sanglier sur son dos. C'est un peu mystérieux, mais enfin bon. Aussitôt que l'animal l'aperçut, il déposa sa proie, la partagea en deux, lui en jeta une moitié et continua sa route en emportant l'autre. Ce ne fut pas la seule fois que cette femme jouit de pareil relief, car à dater de ce jour, elle n'avait qu'à aller à la forêt pour trouver des restes de cerfs ou de chevreuils que son père adoptif lui laissait. Fin de la citation. Alors, le père Quemelin, pour être missionnaire, n'en était pas moins un excellent observateur, et ses études ethnographiques sur les Réungao, dont il parlait fort bien la langue, continuent jusqu'à maintenant à faire autorité et à être confirmées d'ailleurs par des ethnographies plus récentes. Aussi nous apprend-il que le pacte conclu entre Oi et le tigre est un contrat d'un type tout à fait particulier qui s'appelle Kraokomba, et qui est l'une des nombreuses formes d'alliance contractuelle que les Réungao peuvent passer avec des humains, mais aussi avec des non-humains, chacune de ces alliances contractuelles comportant des obligations spécifiques aux deux parties. On voit bien donc, dans un tel cas, que les inversions de perspective ne jouent aucun rôle dans les relations concrètes entre collectif humain et collectif non humain, relations qui sont au contraire structurées par des rapports d'échange contractuels présupposant qu'il n'y ait point d'équivoque possible quant à l'identité des parties en présence et quant aux capacités dont chacune dispose pour que l'échange soit fructueux pour tous.
Le Collège de France et France Culture vous présente l'anthropologue Philippe Descola, les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui les collectifs monospécifiques.
Un dernier schéma de relations caractéristiques des collectifs animistes est celui du don ou du partage, dans lequel le transfert d'une valeur n'appelle pas de contrepartie. En Amazonie, ce schéma de relation est fort bien illustré par les populations Arawak du piémont des Andes centrales du Pérou, un ensemble pluriethnique dont font partie les Matsigenga, dont j'ai évoqué les mythes perspectivistes il y a un moment. Et c'est un ensemble dans lequel la générosité, la solidarité, la prédominance du bien commun sur l'intérêt des parties ont été élevés au rang de canon suprême des comportements. Les espèces chassées, les espèces animales chassées et leurs maîtres relèvent pour l'essentiel d'une race d'esprits qu'on appelle nos gens ou nos congénères, et qui sont réputés témoigner de bonnes dispositions à l'égard des humains. La plupart des oiseaux chassés sont eux-mêmes des incorporations d'esprits, et leur mise à mort n'est au fond qu'un simulacre. Après que le chasseur ait demandé à l'oiseau son vêtement, son corps donc, l'oiseau lui offre son enveloppe charnelle, il l'offre à la flèche du chasseur, par compassion pour le chasseur qui est affamé et qui doit nourrir sa famille, et retrouve son apparence humaine invisible en se réincorporant, se réincarnant dans un corps identique. Donc l'animal n'encourt aucun dommage. Et cet acte de bienveillance de sa part n'appelle pas de contrepartie. D'autres espèces communes de gibier à plumes sont les protégés, non plus les avatars, des esprits qui les donnent aux humains pour qu'ils les chassent, là encore sans contrepartie, et cette bonté s'explique par le fait que les esprits, leur transformation animale et les espèces qu'ils commandent sont identiques aux humains, au fond, sur le plan ontologique. Les populations arawak les considèrent comme de très proches parents, et le don de leur dépouille est un simple témoignage du devoir de générosité qui s'impose entre des gens d'une même parentèle. Or, l'altruisme et la prodigalité dont les esprits animaux font preuve dans le don de leur dépouille est en fait un écho dans les rapports entre collectifs humains et collectifs non humains, des rapports internes aux collectifs humains à l'échelle de l'ensemble linguistique arawak, rapports qui sont caractérisés par un éthos où sont privilégiés la confiance, la générosité et l'horreur de la contrainte. Ces peuples arawak, en effet, ont poussé très loin la volonté de conjurer en leur sein la dissension et l'altérité, en réduisant au minimum ces écarts entre les individus qui sont au fond indispensables pour qu'une relation soit de réciprocité, soit de prédation puisse s'établir. Ils sont en particulier notoires, ces peuples, pour la forte censure qu'ils exercent à l'encontre de la violence interne, source de ressentiment durable et facteur pour eux de désagrégation du lien social. Les Matsiganga offrent un exemple spectaculaire de cette inhibition de la dissension lorsque des hommes qu'un différent oppose, généralement à propos d'une femme, s'affrontent dans des joutes verbales. Et les provocations y alternent avec les offres d'apaisement. Et la querelle s'achève lorsque l'un des protagonistes, réfléchissant sur lui-même, sur sa propre personne, l'agressivité qui l'anime, commence à se frapper lui-même à coups redoublés, imité immédiatement par son adversaire. Et l'idéal du don et du partage comme schème dominant des relations entre collectifs n'est pas propre à ce que je viens d'évoquer. Il a été décrit dans bien d'autres régions de l'archipel animiste, par exemple dans les tribus algonquiennes du nord de l'Amérique du Nord, plus au nord chez les Inuits, ou encore loin de là chez les Chewang, par exemple, de Malaisie, ou chez les Bouides des Philippines. Alors, pour caractériser ces différentes formules de la sociologie animiste, j'ai parlé de schèmes de relations dominants, car aucune relation n'est hégémonique. Et chacune des trois principales que j'ai mentionnées, la prédation, l'échange et le don ou le partage, qui sont ici synonymes, en englobe d'autres qu'elle réoriente en partie. Ainsi, la prédation, qui caractérise, comme je l'ai dit, autant les rapports entre collectifs vivaro que ceux qu'ils entretiennent avec les collectifs animaux, eh bien, la prédation elle laisse la place à l'échelle locale, à des rapports d'échange symétriques, notamment matrimoniaux. De même que la prédation exercée sur le gibier se voit en partie compensée par la pratique généralisée de l'apprivoisement des petits animaux, une relation de protection dominatrice qui suppose évidemment une inégalité de statut entre le protecteur et le protégé, tandis que la prédation relie au contraire, ça il est important de le souligner, deux termes de même niveau ontologique. Sinon, il n'y aurait pas prédation. J'ai besoin d'un équivalent de moi-même pour alimenter et ma personne, et mon corps, et mon identité locale. On trouve aussi, à l'inverse, une forme d'englobement de la prédation par l'échange dans les collectifs du Nord-Ouest amazonien. Par exemple, dans la pratique, qui est exceptionnelle, il est vrai, qui a maintenant disparu, des raids pour se procurer des épouses dans des groupes linguistiques avec lesquels on n'échangeait pas normalement des femmes. Ou encore dans les rapports entre collectifs humains et dans, collectifs non humains, qui pourraient être formulés dans le langage général de l'échange et être officiellement garantis par un pacte de réciprocité, n'en prennent pas moins la forme effective d'une chaîne trophique reliant des mangeurs et des mangés. En outre, et comme on l'a vu dans la quatrième leçon à propos donc, du Nord-Ouest amazonien, les rapports d'échange paritaires entre collectifs Tucano englobent aussi des rapports de protection dominatrice et d'exploitation effective que les Tucano exercent sur les collectifs d'Indiens Makou. Autrement dit, même s'ils sont régis par un schéma de relations dominant, les rapports concrets entre collectifs prennent des formes plus souples qui autorisent des combinaisons complexes de relations entre des termes, voire le changement de statut de certains termes en fonction des circonstances. Ainsi, les animaux chassés, qui sont des alter-ego traités comme des affins, deviennent-ils, lorsqu'ils sont apprivoisés et hébergés dans le cadre domestique, deviennent-ils des êtres en tutelle traités comme des enfants? Donc, ils changent de statut. C'est pourquoi la position ontologique des termes peut être modifiée lorsque ces termes sont subsumés dans une relation différente de celle qui les définit en temps ordinaire. Alors, les termes que j'emploie pour qualifier les relations caractéristiques de la sociologie animiste, la prédation, l'échange, le don, le partage, sont évidemment des abstractions anthropologiques qui ne sont pas formulées comme telles par les collectifs humains qui les mettent en œuvre. Ces trois grands régimes de relations synthétisent simplement chacun des formes d'obligation qui s'imposent ou non aux termes humains et non humains de la relation. L'obligation de rendre en retour dans l'échange, ou au contraire le droit de prendre sans rendre, droit qui vous est concédé dans le don ou que l'on s'arroge dans la prédation. Mais dans le vocabulaire des institutions locales de l'animisme, ces formes de relations sont formulées dans les mots des rapports entre humains. Les obligations de l'échange s'expriment en général dans le vocabulaire des rapports entre affins. Le don s'exprime dans le vocabulaire des obligations entre parents proches, par exemple le partage de nourriture, tandis que le rapport prédateur au gibier s'exprime en général dans la terminologie propre à la guerre ou à la sexualité. J'ai déjà expliqué dans la leçon que j'ai consacré à la conceptualisation de ce que j'entends par collectif, les raisons pour lesquelles l'emploi généralisé dans tout l'archipel animiste d'un vocabulaire dénotant des relations entre humains pour désigner aussi des relations entre des collectifs de personnes humaines et des collectifs de personnes non humaines, pourquoi cet emploi n'impliquait pas pour autant que les derniers types de relations, c'est-à-dire les rapports entre des collectifs de personnes humaines et des collectifs de personnes non humaines, devaient être réduites à des projections métaphoriques des premières. Je me contenterai donc de rappeler l'argumentation en quelques mots. Il se trouve en effet que les relations entre humains sont en général mieux spécifiées que les relations entre non-humains et que les catégories d'humains aussi sont moins nombreuses que les catégories de non-humains et aussi que les conduites à tenir entre humains sont mieux prescrites et codifiées que les autres. Vous n'avez pas, même ici, dans le monde, notre monde naturaliste, un corps spécifique de conduite à tenir vis-à-vis de la très grande majorité des non-humains, que ce soit des artefacts ou des objets naturels. C'est la même chose partout. En outre, et c'est tout particulièrement le cas dans l'archipel animiste, la normativité des attitudes prescrites, par exemple entre types de parents, est renforcée évidemment par leur répétition. C'est en se conformant au rapport de familiarité ou d'évitement, de respect ou de badinage avec tel ou tel parent, que la légitimité et la normalité de leur caractère prescriptif vont ressortir. Mais c'est aussi parce que les relations entre humains autorisent des variations plus larges que les interactions observables entre non-humains, et notamment du fait que leurs différences d'expression instituées deviennent plus manifestes lorsqu'elles sont comparées avec un regard critique aux formes qu'elles revêtent dans les sociétés voisines. Et tout le monde fait ça, tout le monde compare les institutions propres avec les institutions des voisins. Il suffit donc d'observer le comportement, le comportement des maris vis-à-vis de leur épouse, ou que la manière dont des parents traitent leurs enfants est très différent dans la tribu d'à côté que je visite l'occasion, pour que ce type de conduite, et donc le rapport entre humains qu'elle qualifie, apparaisse comme une relation discrète, susceptible de recevoir plusieurs expressions. Et donc, elle devient progressivement une sorte d'hypostase. Donc, les rapports entre conjoints et les rapports entre les géniteurs et leurs enfants ne sont pas que des catégories isolés par les anthropologues, ils fournissent à tous ceux qui en font l'expérience la matière à des commentaires réflexifs et à des jugements d'évaluation qui donnent à ces rapports une consistance suffisante pour qu'ils puissent être employés à d'autres usages qu'à la qualification des relations qu'ils caractérisent à l'origine. Donc les relations entre humains, elles se présentent comme des schèmes relativement abstraits, faciles à mémoriser, plus faciles à mobiliser pour un usage étendu que les relations entre non-humains détectables dans un écosystème. Il faut simplement rappeler, par exemple, que le vocabulaire de l'écologie scientifique ne s'est formé que très tardivement et que des phénomènes qui sont pourtant observables dans l'environnement et qui quelquefois recevaient une forme métaphorique comme la symbiose, la commensalité, la prédation, etc., n'ont acquis un statut scientifique et n'ont été exprimés dans un vocabulaire scientifique à la fin du XIXe siècle en Europe. C'est pourquoi les diverses expressions dans les institutions humaines de ce que j'ai qualifié, disons, comme la prédation, l'échange ou le don, peuvent fonctionner dans les ontologies animistes comme des cadres cognitifs permettant de concevoir et de qualifier non seulement les rapports des humains à tous les êtres à qui ils imputent une intériorité analogue à la leur, mais aussi les rapports entre ces êtres eux-mêmes. Il ne s'agit donc en aucune façon d'un usage métaphorique, plutôt de l'emploi d'une étiquette empruntée au champ des relations entre humains pour désigner une relation plus générale. Alors, après ces précisions sur les caractéristiques des collectifs animistes, il convient de se pencher sur la nature de leur rapport à la Terre, qui est l'objet quand même du cours de cette année, en particulier de voir si ce rapport diffère selon que l'on a affaire à des collectifs humains ou à des collectifs non humains. Si l'on accepte des cas particuliers, comme celui des Makou et des Tucano, dont j'ai parlé dans, je crois, la troisième leçon, et dont on a vu que les zones d'usage étaient imbriquées, les tribus espèces d'humains occupent en général, en régime animiste, des territoires qu'ils ne partagent pas avec d'autres tribus espèces d'humains, tandis que les tribus espèces de non-humains utilisent le plus souvent les mêmes espaces que les tribus espèces d'humains et d'autres tribus espèces de non-humains. Autrement dit, les territoires collectifs des collectifs humains qui, dans le monde animiste, exploitent en général les mêmes ressources à l'échelle régionale et entrent ainsi en rapport avec les mêmes types de non-humains, dans l'horticulture, dans la chasse, etc., sont dans une large mesure exclusifs, ces territoires, et s'organisent selon un modèle concentrique avec un gradient de contrôle décroissant par rapport au site d'habitat. Alors que les territoires des non-humains, ceux des animaux notamment, se structurent plutôt de façon complémentaire sur le modèle de la niche écologique où différentes tribus-espèces cohabitent, soit pour exploiter des ressources différentes dans un même espace, soit pour exploiter les mêmes ressources à des moments différents, soit, enfin, pour partager la ressource sous le régime de la commensalité lorsque cette ressource est abondante. De ce fait, le rapport à la Terre des tribus-espèces humaines se distingue assez nettement de celui des tribus-espèces non humaines. Et je vais en examiner deux modalités, l'une en Amazonie et l'autre en Nouvelle-Guinée. Pour ce qui est de l'Amazonie, je reviendrai à l'exemple Achuar, qui a le mérite de commencer à être familier pour les auditeurs du cours de cette année.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 6 avril 2016 Philippe Descola, Les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité. Aujourd'hui, les collectifs monospécifiques. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Descola. L'anthropologue a notamment publié « Par-delà nature et culture » en 2005 chez Gallimard, et plus récemment « La composition des mondes », entretiens avec Pierre Charbonnier chez Flammarion en 2014. Un grand merci à Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Philippe Descola l'analyse des collectifs monospécifiques. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.